Ce matin, on a vu un peu le modèle ou les marques de cette vie de maturité, la foi persévérante en Christ, l'amour, parfois coûteux, pour les siens, nos frères et sœurs, cette espérance de la vie éternelle, et le moteur étant cette connaissance de Dieu, connaissance de notre bon Père Céleste en Jésus. Par l'Évangile, une connaissance personnelle, une connaissance libératrice, pas juste dans la tête. On va voir maintenant un peu plus sur cette connaissance dans la suite de l'Épître de Paul aux Colossiens. Donc on va lire les versets 1 à 7 du chapitre 2. Je vais sans doute concentrer un peu plus sur les versets 6 et 7 dans le message, mais quand même on va lire les versets 1 à 7 du chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats aussi ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui, Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe dans des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Alors, la première chose que j'aimerais qu'on voit dans ce passage, c'est ce que je vais appeler Jésus comme au bon vieux temps. Je ne sais pas si vous aimez ce qui est neuf, ce qui est novateur. Peut-être vous êtes toujours sur le qui-vive pour quelque chose que pour la nouvelle version de quelque chose que vous aimez. Peut-être la nouvelle version d'une certaine voiture, ou peut-être si vous aimez les iPhones, vous attendez avec impatience la nouvelle version. On est un peu comme ça dans la société de consommation. On se fatigue bien vite de ce qu'on vient d'acheter. On veut passer à autre chose. Au travail, notre PDG nous parle du danger de l'attrait séducteur du nouveau truc, du nouveau projet au détriment de la persévérance dans ce que nous faisons actuellement. Et il le fait parce qu'il sait qu'il est le premier concerné. Et dans la vie chrétienne, il y a cette tendance fâcheuse aussi de vouloir passer à quelque chose de neuf. On veut quelque chose de nouveau, parfois quelque chose de plus émotionnel, ou quelque chose d'intellectuellement plus intéressant ou plus acceptable. On va revenir un peu sur ces pièges plus tard. Mais la première chose que je veux qu'on voit, et l'apôtre Paul est très clair là-dessus, c'est quelque chose de vieux. C'est ce que nous voyons au verset 6 et 7 du chapitre 2. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Là, c'est peut-être la clé du livre tout entier, en quelque sorte, ou le cœur de son message. Là-dedans, il y a un regard vers le passé, mais ce passé va nous faire avancer vers l'avenir. Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Fondamentalement, dans la vie chrétienne, dans la vie de maturité, on continue de faire la même chose qu'on a fait au début de la vie chrétienne. Le modèle du début, c'est le modèle de la suite. Et qu'est-ce que les Colossiens ont fait au début? Et ça, on peut le voir au chapitre 1, parce que Paul en a déjà parlé. Verset 1, par exemple, au verset 4. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, c'est ce qu'on a vu ce matin. Ensuite, il a dit, vous avez déjà entendu parler de cette espérance par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras. Donc, ils ont entendu l'Évangile, ils ont cru l'Évangile, et en faisant ça, ils ont connu, ils ont goûté à la grâce de Dieu dans la vérité. C'était le fait d'accueillir les bras grands ouverts le Seigneur Jésus. C'est un peu comme Olivier a évoqué avec ce passage avec les enfants. Les enfants accueillent Jésus, les bras grands ouverts. Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est ce que Olivier a... Bon, c'est Jésus qui l'a dit, mais Olivier nous a rappelé le passage. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Un enfant ne cherche pas à mériter le royaume ou à donner quoi que ce soit en retour. Un enfant n'a aucune prétention de grandeur, mais dans la faiblesse, dans la confiance, les mains vides, il accueille le royaume. Ça me fait penser aussi à ce chant, ce cantique, « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. » Et étonnamment, la vie chrétienne, la vie de maturité, continue de faire justement ça. Elle est lucide, elle continue d'être lucide sur son incapacité à plaire à Dieu, à bien performer sur le plan spirituel. Et comme au premier jour, tout au long de la vie chrétienne, on dépend entièrement à 100% de la grâce de Dieu. La foi seule, en Jésus seul, c'est comme ça que les réformateurs l'ont expliqué, c'est une formule très sage, la foi seule, en Jésus seul. Et c'est une leçon à la fois simple, on l'apprend au début, mais aussi difficile, je pense, parce que tout en nous lutte un peu contre cette leçon. Tout en nous venu remettre derrière le volant, au contrôle, on veut être un peu aux manettes, même si on n'en a pas vraiment la capacité, on n'a pas la capacité de faire ça. Qu'est-ce qui nous fait faire ça? Je pense que c'est un manque de connaissance à la fois intellectuel, mais aussi émotionnel de Jésus lui-même. C'est pour ça que Paul a prié pour cette connaissance de Dieu en Jésus. Peut-être parfois c'est un peu la peur du jugement. On doute un peu qu'il n'y a vraiment plus aucune condamnation pour nous en Jésus-Christ. Parfois on revient là-dessus et on commence à croire ce genre de mensonge. Ou bien parfois, on commence à devenir un peu blasé quant à notre péché. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être enraciné et fondé en Jésus pour toujours l'accueillir, comme au début, par la grâce seule, comme un enfant, en recevant Jésus comme un cadeau, sans rien à nous. Après Jésus, comme au bon vieux temps, on va considérer maintenant cet enracinement, cette fondation en Jésus. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en Jésus. Actuellement, comme j'ai dit ce matin, je travaille dans l'horticulture. Je ne suis pas un expert, mais j'aime bien aussi ce domaine. Et j'ai appris l'importance des racines. L'importance en particulier de la racine pivotante. Et c'est la racine fondamentale qui descend verticalement dans le sol de la plante et à partir de laquelle toutes les autres racines partent dans tous les sens. Et ça donne la stabilité de la plante et la croissance un peu en dépense. Si vous cassez la racine pivotante, en tout cas, ce n'est pas bien. Il faut se soucier des racines si on veut avoir une plante saine, et c'est vrai aussi pour notre vie chrétienne. Il faut que nos racines soient bien mises. Et il faut en particulier que nos racines, et cette racine pivotante, si je puis dire, il faut qu'elle descende directement et qu'elle s'ancre en Jésus lui-même. On continue d'accueillir Jésus comme au premier jour, simplement, humblement, sincèrement, dans la repentance et la foi, dépendant de la grâce seule, et ensuite on s'enracine en lui seul. Et c'est lui notre terreau vivant. Et la réalité, c'est que Christ, puisqu'il est Dieu, un avec le Père, l'égal du Père, il est infiniment riche. On ne peut pas dire qu'on sait tout sur Jésus. Il est une mine inépuisable de richesse et de bonté. Quand j'avais 9 ans, avec mes parents, on est parti en vacances en Norvège. On a pris le bateau de l'Angleterre pour aller en Norvège. Avec notre voiture, on a fait un circuit et la nuit, on dormait dans les auberges de jeunesse. Et le matin, il y avait des petits déjeuners norvégiens. Et ça s'appelle un smorgasbord. Il y avait une abondance. Poisson fumé, les céréales, le pain grillé, des œufs, la charcuterie, plein de choses. Et on pouvait se resservir en plus. Et un enfant de 9 ans qui n'a jamais connu ça en Angleterre, c'était les années 80. C'était une merveille. C'était absolument super. C'est ce que nous avons en Jésus. Lisons ce que Paul dit au début du chapitre 2. On l'a lu au début là. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Christ, c'est en lui, Jésus, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et quand on lit cette épître de Paul, cette épître où Paul se donne ce but, il veut présenter chacun adulte en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait Paul? Il prie, on a vu ça ce matin, et ensuite il étale un festin extraordinaire, un smorgasbord spirituel. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la beauté, on voit la grandeur, la suffisance, l'autorité de Jésus. Il a prié au chapitre 1 que ses amis soient remplis de la connaissance de Dieu par Jésus. Il ne s'est pas contenté juste de la prière, il a ensuite un peu répondu à sa propre prière en donnant cette connaissance. Par exemple, c'est ce qu'on voit dans la suite du chapitre 1, on ne l'a pas lu, mais à partir du verset 15, le Fils Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Paul brosse un peu ce tableau de Jésus devant nos yeux, cette vision de Christ exalté, glorieuse, toute autorité lui a été donnée. On a besoin d'avoir ses racines, cette racine pivotante qui descend directement en lui. Il peut y avoir, je pense, dans nos milieux, parfois une vision assez réduite de Jésus. il peut devenir, c'est pas ce qu'on souhaite, mais parfois, il peut devenir un peu le petit Jésus qu'on va sortir, garder un peu dans notre poche et sortir quand les choses vont mal. Et ce Jésus qui va juste un peu caresser nos oreilles, un Jésus qui ne juge pas, qui nous aime, quoi qu'on fasse, qui n'a pas d'exigence morale. Mais on voit dans ce passage quand même un Jésus qui a toute autorité. Le Seigneur de l'univers, le juge de tout homme. Il est grand. Je lis en ce moment avec mes fils les Chroniques de Narnia, un livre pour enfants de l'apologète chrétien C.S. Lewis. Il y a une scène là où les enfants parlent avec des castors. Ils parlent avec un lion, ils parlent d'un lion plutôt, qui s'appelle Aslan. Et si vous connaissez ces livres, ce lion représente Jésus en quelque sorte. Et les enfants veulent savoir comment il est ce lion. Et les castors leur disent, vous savez, ce lion, il est dangereux, mais il est bon. On voit dans Colossiens que, effectivement, Paul brosse ce tableau de Jésus. Il est l'autorité suprême. Mais on voit également qu'il est un sauveur, qui est généreux, qui est bienveillant, qui nous aime beaucoup plus qu'on ne pourrait jamais imaginer. Je continue la lecture du chapitre 1, c'est juste les versets suivants. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire apparaître devant lui saints. Sans défaut, sans reproche, ces choses faites. Voilà le smorgasbord étalé devant nous, Christ en toute sa gloire. Et Paul, il est en train de dire à table, profitons en s'enracinant lui, on se régale de lui, de sa personne. On l'accueille comme un enfant, de manière humble, on continue de faire comme ça, par la foi seule, par Jésus seul, et ensuite, on s'enracine en lui. C'est un peu comme on a dit ce matin en citant ce vieux cantique, « Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix, éveillez ma mémoire oublieuse parfois. » On revient là-dessus tout le temps et on s'enracine en Jésus. Et je veux terminer avec la dernière phrase dans le verset 7 du chapitre 2, « Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Et je vais le faire en abordant ce qui se passe après dans cette épître, la section suivante. Parce que la section suivante, c'est plutôt un avertissement qui nous montre ce qui peut se passer si on n'est pas affermi dans la foi, si on n'accueille plus Jésus de manière humble comme un enfant, si on ne s'enracine pas dans la connaissance de Jésus. Mais si on, justement, continue de faire ça, de s'appuyer sur Jésus, de l'accueillir, de grandir en lui, on est comme inoculé contre ces poisons qui peuvent nous guetter. On lit ça au verset 8 du chapitre 2. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes alimentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » Je saute un peu des parties, mais au chapitre 2 et à partir du verset 16, on voit à peu près où il veut en venir. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. On ne va pas revenir sur tous les détails là, mais ce que je veux mettre en avant, c'est ce danger de comportements, d'habitudes, de coutumes, de pratiques religieuses qui ont l'air bien sages, bien disciplinées, voire pieuses, où on peut penser qu'on est sur la voie de la maturité parce qu'on fait ces choses. Peut-être collectivement, les gens commencent à dire « Ah oui, quelqu'un de mieux va faire ceci ou cela. » Mais finalement, on a remis l'homme au centre, plutôt que la confiance en Jésus seul. Et cette confiance simple en Jésus est éclipsée, souvent de manière inconsciente. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas toujours simple de continuer d'accueillir Jésus comme un enfant, sans rien à nous. Parfois, on a cette peur, parfois. On doute de la bienveillance de Dieu. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il m'accepte encore? Parfois, c'est parce qu'on a un manque de crainte. On oublie notre besoin de la grâce. On croit que, voilà, ça fait quelques années qu'on est à l'église, on fait plus ceci ou cela. On sert dans tel domaine à l'église. Et merci Seigneur pour ces choses. C'est bien. Mais petit à petit, on peut commencer à focaliser un peu sur nous-mêmes finalement, dans ce que nous faisons, plutôt que sur Christ lui-même. Et tout cela, ça peut être sur le plan personnel, que quelque chose que nous sommes en train de faire individuellement, personnellement, mais toute une église peut également glisser un peu vers cette manière de faire, à remettre l'homme au centre, la confiance en l'homme, dans ses apparences. Et c'est sans doute un peu ce qui se passait à Colosse, sous l'influence de certaines personnes. Ils commençaient à formaliser certaines coutumes, certaines pratiques, et ils ont confondu un peu la maturité avec l'adhésion, la conformité. Il fallait se conformer à ces choses pour être considéré mûr. Ce n'est pas simple de dire, alors, à notre époque, dans nos contextes, ça pourrait ressembler à quoi? On est peut-être moins tenté par les mêmes choses qu'eux, peut-être des traditions juives pour eux à l'époque. Mais entre nous, ça peut être parfois une certaine manière de prier ou de parler. Et ça commence à devenir un peu la norme. On n'est pas mûr si on ne prie pas d'une certaine manière. Ou on fait de la participation à certaines réunions d'église après le dimanche, en dehors du dimanche. Ah oui, ça devient un peu obligatoire. Pour quelqu'un, s'il est mûr, il va quand même faire ceci ou cela. Ou la pratique du jeûne. Ou certains choix quant à l'éducation des enfants, ou même une certaine manière de s'habiller au culte. Il peut y avoir plein de choses. Mais l'essentiel, c'est de voir si quelque chose remet l'homme au centre, au détriment de cette confiance en Jésus seul. La tentation, c'est toujours d'ajouter à Jésus une certaine manière de faire. Et là, on est vraiment mûr si on fait ça. Là, on est vraiment... Ou pire, là, on est vraiment acceptable à Dieu. Au verset 21 du chapitre 2, Paul parle de commandement humain avec une apparence de sagesse qui indique un culte volontaire, donc quelque chose de sérieux. Hein, c'est quand même sérieux. C'est quand même pieux ce qu'ils font. Mais finalement, peut-être sans le savoir, l'homme est au centre. Et sans doute, les tentations varient énormément d'époque en époque, de milieu en milieu. Mais toujours est-il que l'homme revient au centre. Et l'antidote, à chaque fois, c'est ce que Paul dit ici au chapitre 2. Accueillir Jésus comme au premier jour. Cette foi simple en lui, comme un enfant. Et ensuite, marcher en lui. Soyez enracinés en lui. Ayez pour obsession, en quelque sorte, Jésus, de s'enraciner en lui, en la connaissance de lui. Et cette maturité chrétienne n'est pas juste un sentier qu'on prend seul. On voit dans cet épître que c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert en Église, entre frères et sœurs. Et c'est un défi pour tout le ministère de l'Église, un défi pour vos anciens, de garder cette foi simple en Jésus seul et cet enseignement qui s'enracine en lui. Priez pour vos anciens, pour qu'ils puissent vraiment continuer de vraiment poursuivre un ministère de cette manière-là, d'étaler ce festin semaine après semaine. Car c'est vraiment en buvant à cette source que nous allons vraiment connaître le Seigneur tel qu'il est vraiment. Et comme nous avons dit ce matin, en le connaissant vraiment, on commence à porter ses fruits de la foi persévérante, l'amour pour les frères et sœurs et l'espérance. Et peut-être une quatrième marque dans ce passage, mais dans tous les passages, c'est cette reconnaissance, cette adoration qui jaillit aussi. Prions et on va demander au Seigneur de nous aider à avoir cette foi simple en Jésus seul. Notre bon Père Céleste, merci en effet pour l'Évangile, cet Évangile qui nous a conduit à Jésus. Et merci de ce que en Jésus, comme avec le Fils prodigue, Père, tu nous accueilles les bras grands ouverts en lui, parce que c'est lui qui a payé pour toutes nos fautes, du début de la vie chrétienne jusqu'à la fin, tout est payé. Et Père, nous pouvons nous présenter à chaque fois devant toi, les mains grandes ouvertes, dans la simplicité, dans cette foi humble. Et nous prions que tu nous aides à continuer de faire ça, à vivre ça jusqu'à la fin de nos jours. Et donne-nous de nous enraciner en Jésus, d'avoir un vrai désir de le connaître davantage. Parce que Père, nous savons qu'en le connaissant davantage, on te connaît toi, le Père qui nous aime. Et notre Père, nous te demandons ces choses en son nom. Amen.